Salut à tous, je suis Victoria Guillaumont, j'ai 22 ans, et je vous souhaite la bienvenue sur Nouvel Œil. J'avais envie de partager quelques prises de recul à un âge où l'on se cherche, où l'on construit son chemin, dans un monde de plus en plus incertain. Un monde où les réseaux sociaux sont omniprésents, où les informations viennent dans tous les sens, et où trouver sa place est souvent une belle épreuve du combattant. Alors je pars à la rencontre de personnalités et de personnes inspirantes qui se sont posées il y a quelques années les questions que nous, on se pose aujourd'hui. Ces personnes qui, de près ou de loin, ont rêvé, ont osé, ont expérimenté et qui ont de jolis messages à nous transmettre pour nous aider à avancer d'un pied plus sûr dans la vie. Parce que tous, on a besoin de conseils, d'inspiration et de vagues d'espoir auxquelles se raccrocher. Alors le temps d'une trentaine de minutes, je vous invite à emprunter un nouvel œil pour regarder le monde sous un autre angle, pour vous recentrer sur ce qui est essentiel et sur qui vous êtes pour vous aider à trouver votre chemin et surtout à oser.
Si vous avez le moindre rêve, la moindre envie, la moindre petite étincelle, écoutez-la, la laissez pas mourir, écoutez-la. Écrivez-la, accrochez-vous à ça, et aujourd'hui dans ce monde il y a tous les outils qui vous sont nécessaires pour réaliser ça. Même si votre but c'est d'apprendre à vous aimer, parce que je sais qu'il y a beaucoup de filles de 20 ans qui sont dans ces cas-là, et même des hommes de 20 ans qui sont dans ces cas-là, ça aussi c'est possible, il faut que vous cherchiez les réponses, elles sont partout autour de vous. Il faut juste chercher, parce que c'est pas des choses qu'on apprend de manière conventionnelle à l'école.
Avec beaucoup de douceur, la mission de Chloé est de nous guider au quotidien vers une vie plus saine et plus sereine. Elle accompagne des milliers de personnes dans leur développement personnel, à travers des programmes, des séjours, des podcasts et des projets qui font sens. Elle a créé la Bloom Academy, la communauté Je suis Fleur et les coachings Rise. Chaque jour, elle inspire un peu plus et soigne le monde avec bienveillance. Vous retrouverez tous les liens des projets de Chloé dans les notes du podcast. Aujourd'hui, on parle d'elle, de son passé, de sa construction personnelle et de son évolution. Dans cet épisode, j'ai mis un accent particulier sur le sujet de l'amour et de comment surmonter une rupture amoureuse. On a également parlé de l'impact sur nos humeurs qu'ont les questions que l'on se pose tous les jours, de comment gérer nos émotions et de ses conseils pour trouver notre chemin. Je vous souhaite à tous une très belle écoute. Let's go. Salut Chloé, je suis très heureuse d'avoir cet échange avec toi aujourd'hui.
Salut Victoria, ravie aussi d'être là.
Écoute, je vais t'épargner la fameuse question de présentation, mais finalement j'ai une question sûrement encore plus difficile.
Ok.
Qu'est-ce que tu as l'impression d'apporter au monde au quotidien ?
Ok, on commence chaud. Merci beaucoup. Qu'est-ce que j'ai l'impression d'apporter au monde ? Alors, j'ai pas l'impression, je sais que j'apporte au monde une grosse dose d'inspiration. Ça fait partie de mon job et de ma mission. Ma mission, je dis toujours que c'est de donner de l'empouvoirment à ceux qui veulent transformer leur monde intérieur pour transformer le monde extérieur ensuite. Et je sais que c'est vraiment de l'empouvoirment, de l'empowerment. Il n'y a pas vraiment de mot en français, mais de l'empowerment et de l'inspiration que je donne aux gens. Qui sont pas vraiment maîtres de leur vie, qui se sentent plutôt victimes et qui subissent un peu, tu vois, des situations dans leur vie, qui ont l'impression de vivre un peu à côté de leur pompe ou d'être dans des situations qui leur conviennent pas, dans des vies dont ils ont l'impression de jouer un rôle qui leur convient pas non plus. Et moi, je vais leur montrer que c'est possible et leur donner des outils pour leur dire, non, reprends les rênes, reprends la place de maître dans ta vie, tu peux choisir la vie que t'as envie d'avoir, tu peux tout faire, tout est possible. Moi, je suis persuadée que l'être humain est illimité, donc c'est ça. J'apporte au monde plein de déclics, plein d'inspirations, je montre que tout ça, c'est possible, parce que j'y crois fortement, et je suis sûre qu'en plus, si chaque personne était maître de sa vie, il y aurait moins de gens qui souffrent, il y aurait moins de divorces, il y aurait plus de personnes épanouies dans leur travail, il y aurait moins de violence, j'en suis sûre et certaine. Donc finalement, je pense que je peux apporter au monde un peu plus de douceur, d'amour et de paix.
C'est beau, fabuleux. Quels étaient tes rêves quand tu étais au lycée ? Est-ce que tu avais déjà une idée précise de métier ou pas ?
Ouais, j'en ai eu plein. J'en ai eu plein. Je m'étais dit tout sauf entrepreneur, ça c'est sûr et certain. J'ai voulu être sage-femme, ensuite je me suis rendu compte que c'était pas pour moi. J'ai beaucoup voulu être née en fait créatrice de parfums. Donc c'est pour ça que suite à mon bac, je suis partie en études de biologie, etc., etc. Puis en fait j'étais quelqu'un qui était tout le temps malade, tout le temps enrhumée, donc j'allais pas aller bien loin en fait. J'avais des rêves, mais pas très grands en fait. Quand je m'en rends compte, pas très grands, parce que je pense que je ne voyais même pas à quel point on avait des possibilités. de faire des choses. Je ne savais même pas ce que c'était qu'entreprendre. Et si tu veux, les rêves, entre guillemets, que j'avais, vraiment entre guillemets, c'était simplement, voilà, dans quelle boîte je vais aller me mettre. C'était plutôt ça. Dans quelle boîte je vais aller me mettre, je ne savais même pas qu'il y avait tout ce champ des possibles qui pouvait être ouvert. Je ne savais même pas qu'on pouvait faire ce que je fais aujourd'hui. Je ne savais même pas toutes les possibilités qui pouvaient s'offrir à moi, en fait. Parce que j'ai suivi un parcours très conventionnel. Je trouve que le système d'éducation nous formate aussi dans un parcours quand même assez conventionnel aussi. On va vite se mettre dans des boîtes. Donc finalement, je n'avais pas d'énormes rêves. Mais j'ai toujours senti que j'étais quand même un petit peu à côté de mes pompes. Ce qui est sûr, c'est que je rêvais plus que tout d'avoir un job dans lequel je puisse exprimer ma créativité. À la base, j'ai une vraie âme d'artiste. J'ai écrit des bouquins à l'âge de 7 ans, je peignais des tableaux, j'écrivais des poèmes, j'étais très artiste. Et en fait, plus j'ai suivi le schéma scolaire, entre guillemets, plus j'ai perdu ça. Donc mon rêve, c'était de me dire, faut que je retrouve quelque chose qui puisse me faire exprimer ma créativité. Mais je savais pas quoi.
Et oui. Et quand tu avais 20 ans, elle ressemblait à quoi, ta vie?
Ouf. Quand j'avais 20 ans... Attends, laisse-moi repartir en arrière 2 secondes, c'était il y a 8 ans. Alors, à quoi elle ressemblait ma vie? Et même moi, j'ai l'impression que c'était une autre Chloé. Alors, j'étais fumeuse, je fumais beaucoup. Je buvais énormément d'alcool tout le temps. Je dormais entre 3 et 4 heures par nuit, je faisais nuit blanche parce que je faisais tout le temps la fête. Je bringuais énormément, j'étais vraiment vue comme la nana de la nuit. J'étais commerciale dans un laboratoire pharmaceutique, donc tout le temps sur la route, jamais chez moi, tout le temps à l'hôtel, en déplacement, etc. Je détestais ce que je faisais. J'étais tellement stressée que, bon, quelques années plus tard, je suis partie dans un burn-out. J'étais extrêmement stressée, je détestais les hommes. Je me disais même que si j'avais un lance-roquette ou un lance-flamme, j'apprendrais à m'en servir pour brûler les mecs dans la rue. Non, mais pour te dire, voilà. J'étais très, très, très en colère. J'étais très fermée. Je laissais personne m'approcher. Je souffrais beaucoup, beaucoup. Je faisais en même temps énormément de fitness. Et j'étais très, très dure avec mon corps. J'en faisais... plus de 10 à 15 heures par semaine pour pouvoir essayer de maigrir. Donc j'avais aussi beaucoup de troubles du comportement alimentaire, à me priver de tas de choses, à faire des crises d'hyperphagie et compagnie. Mais par contre, j'étais une nana hyper déterminée, hyper courageuse, hyper ambitieuse. Surtout, c'est ça qui m'a portée, je crois. Voilà.
Et tu t'es très vite intéressée au développement personnel. Est-ce que tu sentais un décalage par rapport aux autres de ta génération, ou est-ce que tu avais l'impression finalement d'avoir grandi trop vite ou d'être incomprise?
Alors, pas forcément, parce qu'en fait, le dev perso, je m'y intéresse que depuis un an et demi. Et Ouais. On pourrait pas croire, mais j'ai compris ce que c'était le dev perso il y a seulement un an et demi, 2 ans. Avant, je connaissais pas du tout. Par contre, ce qui est sûr, c'est que j'ai toujours eu des réflexions qui étaient un peu différentes des personnes de mon âge aussi. Alors, pas de toutes les personnes de mon âge, parce qu'il y a plein de gens de mon âge qui étaient aussi différents comme moi. Mm-hmm. Mais ce qui est sûr, c'est que j'ai toujours été très mature, et du coup, j'étais toujours avec des personnes qui avaient 8 à 10 ans de plus que moi. Mon groupe d'amis, c'est aussi des personnes qui sont beaucoup plus âgées que moi, et qui sont différents aussi. Qui sont différents, qui sont dans des schémas pas trop conventionnels, qui sont entrepreneurs, qui vont vivre à l'étranger, même dans les relations amoureuses qui sont différentes, qui ont envie d'éducation différente pour leurs enfants. Donc ouais, je me sentais en décalage avec les personnes de mon âge. Mais du coup, je pense que c'était une bonne chose, ça m'a incité à bien m'entourer. Et il y a une phrase que je ne cesserai de dire, c'est en gros, si t'es la personne la plus curieuse de ton cercle, change de cercle. Si t'es la personne la plus ambitieuse de ton cercle, change de cercle. En fait, si t'es la personne la plus X, change de cercle. Parce que c'est important de s'entourer de personnes qui te tirent vers le haut. Et ça, c'est un truc que du coup, j'ai toujours fait parce que je me sentais pas à l'aise avec les gens de mon âge. Et je sais que ça m'a porté.
J'aimerais parler de ce sujet qui est l'amour.
Ouais.
Parce que c'est un sujet qui nous concerne tous. Et tu as d'ailleurs fait un podcast à ce sujet-là.
Oui.
Et bien souvent, en fait, on découvre l'amour au moment même où on se cherche nous et où on se construit personnellement. Et je sais que tu as eu une rupture amoureuse à 19 ans qui a été un choc pour toi et qui a remis beaucoup de choses en question dans ta vie. Alors j'aimerais savoir comment tu as vécu cette période et en quoi elle t'a finalement élevée.
J'ai très mal vécu cette période. À l'époque, j'avais aucun outil de dev perso, je ne connaissais pas ce que c'était, je savais pas que les podcasts ça existait, j'avais rien de tout ça. Et aujourd'hui, s'il y a des personnes qui sont dans ce cas-là et qui sont jeunes, s'il vous plaît, écoutez des podcasts, lisez des livres, ne faites pas comme j'ai fait à l'époque. Voilà, vraiment, j'insiste. Moi, je suis tombée en totale dépression, donc j'ai été sous antidépresseurs et anxiolytiques pendant des mois. Avoir des pensées suicidaires et tout, c'était vraiment chaud. Mais parce qu'en fait, en perdant l'amour que j'ai perdu, je me suis perdue moi, et parce qu'en fait, je ne m'aimais pas. C'était la seule chose... J'étais persuadée que l'amour venait de l'extérieur. Donc je me suis perdue moi, j'étais persuadée que plus personne ne m'aimerait. Et en fait, surtout, j'ai perdu toute estime de moi. J'ai perdu toute estime de moi, vraiment. Enfin, la manière dont je parlais de moi, c'était juste une horreur. Et du coup, suite à cette rupture, je n'ai fait qu'attirer à moi des personnes qui me confirmaient l'image que j'avais de moi. C'est-à-dire, je pensais que j'étais une grosse merde et que personne ne pourrait m'aimer et que j'étais immonde. J'ai attiré à moi que des mecs qui me confirmaient ça, en fait. C'était involontaire, bien sûr, mais les personnes que j'ai eues derrière étaient des personnes encore qui ne me méritaient pas. Et tout ça, ça m'a fait beaucoup travailler sur mon estime de moi, cette période. Ça m'a fait aussi travailler sur mon identité. Quel rôle j'ai envie de jouer? Est-ce que j'ai vraiment envie et besoin d'être comme ça pour plaire aux hommes, comme ceci pour plaire aux femmes, comme ci, comme ça pour être sûre que je suis une femme séduisante? Est-ce que c'est vraiment un poids qui me définit? Est-ce que c'est vraiment des études qui montrent que je suis intelligente? Comment je dois être? Et est-ce que je dois vraiment être quelque chose de particulier pour être sûre d'être appréciée et aimée? Ou est-ce que je peux juste être moi? Moi, ressentir de l'amour pour moi-même. Donc ça m'a fait beaucoup, ça m'a amené sur beaucoup, beaucoup de choses. Ça m'a même appris à arrêter d'être en colère aussi contre la terre entière, donc arrêter d'être en colère contre moi, aimer les hommes pour ce qu'ils sont, arrêter de voir toutes les femmes comme des concurrentes et plutôt comme des sœurs. Donc ça a été un gros, 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 gros chemin. En cours de route, j'ai rencontré mon chéri actuel et le chemin a continué ensuite. Et aujourd'hui, quand je vois la Chloé d'avant, je me dis mais bordel, elle était sauvage celle-là.
Donc pour toi, la principale raison pour laquelle une rupture peut être aussi blessante finalement, c'est parce qu'on construit notre identité en fonction de cette personne et que quand on la quitte, on se sent perdu et profondément seul parce qu'à aucun moment on a pris le temps de chercher qui on est nous, personnellement.
Exactement.
Donc ma question finalement, c'est comment on apprend à se connaître sans s'identifier à son amoureux ou à son amoureuse?
Faire ce qu'on n'a jamais fait. C'est en faisant toujours la même chose qu'on a des résultats tout le temps identiques. Si on veut avoir des résultats différents, faut faire différent. Donc je pense qu'il faut faire des choses qu'on n'a jamais fait. C'est pas pour rien qu'il y a plein de personnes qui partent en voyage aussi suite à des ruptures, parce que c'est un moyen aussi de tester leurs limites et d'apprendre à se connaître et de se découvrir. Alors ça peut être une fuite en avant, mais parfois ça aide aussi énormément. Je pense qu'il faut vraiment apprendre à se connaître, c'est-à-dire en se posant les bonnes questions. Finalement, moi, qu'est-ce que j'aime chez moi? De quoi j'ai vraiment envie? Où est-ce que j'arrive pas à dire non? Où est-ce que j'ai besoin de savoir mettre mes limites? À quoi j'ai envie de ressembler? Qui est-ce que j'ai envie d'incarner? Et qu'est-ce qui vraiment me rendra heureux? Parce que le problème, il y a le problème identitaire, et il y a aussi très souvent le problème d'amour propre. On est toujours persuadé qu'en fait l'amour vient de l'extérieur et que c'est uniquement quand quelqu'un nous aime qu'on va pouvoir ressentir de l'amour et être aimé, etc. Alors qu'en fait, ben, faut d'abord s'aimer soi. Faut d'abord avoir un peu de respect pour soi. Apprendre à tenir les promesses qu'on se fait à soi, se réaliser, s'épanouir. Et là, alors l'amour, il est partout. Et même quand on est célibataire, l'amour est partout, partout sur Terre. Tout le monde nous aime, même quand ils ne connaissent pas.
Et quel conseil tu aimerais partager à ceux qui vivent une rupture amoureuse aujourd'hui?
Alors, j'ai sorti un podcast hier là-dessus, en plus.
Ouais.
alors moi, je pense qu'il y a deux choses à faire. C'est tout d'abord arrêter de se poser des mauvaises questions. C'est-à-dire, mais pourquoi ça m'arrive à moi? Mais qu'est-ce que j'ai fait de mal? Tout ça, c'est des mauvaises questions qui va faire que ça va vraiment nous engluer dans un espèce de drama qui va clairement pas nous être utile. Il vaut mieux se poser des bonnes questions qui vont vraiment nous relever la tête. Donc en gros, ok, de quoi j'ai envie? Quel est le type de personne que j'ai envie d'attirer dans ma vie? Est-ce que j'ai besoin d'être seule ou est-ce que j'ai besoin d'être avec quelqu'un? Comment je me sens aujourd'hui? Donc vraiment aller se poser les bonnes questions. Comment est-ce que je peux faire pour aller mieux dans cette rupture? Quels sont les projets que je peux mettre en place? Qu'est-ce que j'ai envie d'avoir, de faire, de posséder plus tard? Voilà, donc vraiment se poser les bonnes questions plutôt, des questions d'empouvoirment encore une fois. Et la deuxième chose aussi, c'est de se reconstruire une identité comme on disait, donc de changer des habitudes, toutes les habitudes qu'on avait avec l'autre, ben d'en créer d'autres en fait, sinon ça va tout le temps nous le rappeler. De se recréer une identité, on n'est pas défini par une relation et je pense que notre identité, elle change constamment au cours de notre vie en fonction de nos expériences. Un peu comme un serpent, on a plein de mues. Et une rupture, c'est l'occasion d'enlever sa mue et de se faire sortir un serpent tout neuf. Donc faut choisir cette opportunité et y aller et voilà, et se redéfinir. C'est un super départ.
On se pose tous beaucoup de questions tous les jours. Beaucoup trop de questions. Trop de pourquoi. Et pour toi, la qualité de notre vie dépend des questions qu'on se pose. Donc j'ai une question pour toi.
Allez.
En quoi justement ces fameuses questions peuvent avoir un impact sur nos humeurs?
Alors en quoi les questions peuvent avoir un impact sur nos humeurs? Je te prends un exemple. J'ai envie de faire un séminaire où je vais parler en public. Je peux me poser la question. Ouais, mais et si je déçois mon auditoire? Et si jamais les gens me jugent? Et si jamais ils sont déçus? Qu'est-ce que ça va procurer chez moi? Ça va procurer de la peur, ça va procurer du stress, ça va procurer peut-être le fait même que je vais pas agir, je vais avoir plein de pensées, je vais imaginer les pires scénarios. Alors que si je me pose la question, Et s'ils adorent, et s'ils m'en redemandent, et s'il y a des gens qui sont dans la salle qui, grâce à ce séminaire, ont des déclics et arrivent à changer de vie. Et si j'arrive même à faire en sorte qu'il y ait des gens qui ouvrent leur cœur, qui soient plus vulnérables et qui donnent de l'amour. Et si jamais, ça me donne encore plus confiance en moi. Et si jamais, juste, je m'éclate. C'est des questions qui sont différentes. Et pourtant, tu vois, quand je me pose ces questions-là, bah moi, tout de suite... Ah ouais, non, ça me fait trop du bien. Genre, ça me donne du courage, j'ai envie de le faire et je peux y aller. En fait, les questions qu'on va se poser, c'est des pensées qu'on a. Et toutes les pensées qu'on a, c'est ce qui va créer nos émotions. Toutes nos émotions découlent de nos pensées. Donc, faut faire très très attention à toutes les pensées qu'on entretient. C'est un peu comme toutes les graines qu'on va planter dans notre esprit, parce que c'est ça qui va donner nos émotions. Donc, tous les jours, t'as le choix d'entretenir des pensées qui te font du mal. T'as le choix de te noyer dans ton drama, dans ton caca. T'as le choix d'entretenir des pensées qui te tirent vers le bas. Ou t'as le choix de cultiver des pensées qui te font du bien et qui vont te donner des bonnes émotions. À toi de voir, du coup.
Et comment on cultive alors ces pensées qui nous élèvent ?
Alors à chaque fois que tu te rends compte que tu as des pensées qui te font du mal, il faut changer de focus et parvenir à se poser des questions qui sont différentes. Donc si tu te rends compte qu'en fait t'es en train de ruminer parce que ça va pas, etc. Et ben tu notes les pensées que t'es en train d'écrire, tout simplement. Tu peux même les brûler et te dire ok, je pense ça aujourd'hui, quelles sont les pensées que je vais alimenter? Eh ben, je vais me poser d'autres questions, je vais faire du travail d'écriture. L'écriture, ça marche très bien. Si par exemple, face à une rupture amoureuse, on se rend compte que les pensées qu'on a, c'est « je retrouverai jamais personne », ça, on se l'est toutes dit. De toute façon, je suis pas digne d'être aimée, et si jamais je finis seule, ok, on peut les écrire. On se fait une grande ligne droite au milieu comme un tableau, et de l'autre côté, on se dit « ok, quelles sont les pensées que j'ai envie d'entretenir ?» Et si je retrouve l'amour d'ici 6 mois, et si jamais je me rends compte que je vais rencontrer plein de personnes, et si ça arrive plus vite que prévu. Donc, on va essayer de contrebalancer ça en cultivant des pensées différentes, mais qu'on arrive à ressentir et à penser réellement.
En tout cas, il y a bien une question qu'on s'est tous posée à un moment donné dans notre vie, c'est « quelle est ma voix ? Pourquoi je suis fait ?» Toi, à quel moment tu as eu le sentiment d'avoir trouvé ce qui t'animait profondément ? Ton ikigai, comme on l'appelle.
À chaque moment, depuis que je fais ce nouveau job, et pourtant j'ai changé plusieurs fois déjà, parce que je suis convaincue qu'on n'a pas juste une voix, on n'a pas juste une passion, on se pose tous la question « oui, mais c'est quoi mon truc ? C'est quoi le truc qu'il faut absolument que je fasse ?» En réalité, il n'y a pas juste un truc, il n'y a pas juste une voix, encore une fois, on peut changer toute notre vie, heureusement, parce que sinon, ça veut dire que si on se plante, on ne peut plus changer. C'est plutôt, ne cherchez pas quelle est votre passion, votre truc absolu, etc., mais faites-les plutôt évoluer dans le sens où vos passions, elles vont vous suivre. Moi, je suis quelqu'un qui adore aider, qui adore communiquer, qui adore inspirer. Peu importe le job que je vais faire, ça va me suivre, en fait. Et je vais mouler mon job en fonction des passions que j'ai. Donc, je pense qu'il faut plutôt trouver, ok, qu'est-ce que j'aime faire, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire, qu'est-ce que j'ai envie d'apporter, sans parler de métier, et ensuite, dans notre métier, apporter ça. Moi, j'ai senti en tout cas que j'étais vraiment au bon endroit, dans le bon job, dans la bonne chose, à partir du moment où je me levais le matin. J'avais cette sensation d'être utile au monde, utile à moi-même. J'étais heureuse, j'avais de l'énergie, j'étais excitée, j'étais parfaitement alignée, en fait. Mais cet alignement, il est constamment mis en branle, et depuis que j'ai commencé ce job d'entrepreneur, donc ça fait plus de 3 ans, j'ai déjà eu des métiers différents, en fait, tu vois. Et même là encore, je suis un peu encore en train de prendre un virage. Ça évolue, mais le cœur reste tout le temps le même, d'inspirer, d'aider, de contribuer, de créer des déclics, de donner de l'empouvoirment, etc. Et ça, je le fais suivre dans mes différents jobs, entre guillemets.
Ça s'est construit petit à petit.
Exactement, exactement.
Et quel conseil tu voudrais partager à ceux qui ne savent pas vers quoi s'orienter ? Donc ça peut être un lycéen qui doit faire ses choix d'études post-bac, mais aussi quelqu'un de 35 ans qui n'aime pas ce qu'il fait aujourd'hui et qui cherche un moyen pour rebondir.
Eh ben, je leur conseillerais de surtout pas prendre le problème à l'envers et de commencer à chercher un autre job dans lequel se mettre, et de chercher une boîte dans laquelle se mettre. Il faut déjà faire le point sur ce qu'on aime. Qu'est-ce que vous aimez dans la vie ? Qu'est-ce qui vous fait plaisir ? Qu'est-ce qui vous procure du bonheur ? Est-ce que c'est d'être tout seul ? Est-ce que c'est plutôt d'écrire, de dessiner ? Est-ce que c'est de parler aux gens, de communiquer, d'aider des gens ? Est-ce que c'est d'inventer des trucs ? On a tous un peu des passions ou des trucs un peu chelous. C'est bien de faire le point là-dessus, mais il faut pas prendre le problème à l'envers. Sinon, ça vous suivra. Le problème vous suivra. Si vous voulez passer d'une boîte à une autre, le problème vous suivra. Il faut vraiment faire le point plutôt sur ce qu'on aime, sur ce qui nous anime, sur les choses pour lesquelles on est doué naturellement aussi. Ça, c'est un truc qui est top. Et après seulement, on trouvera le métier. Mais il faut déjà faire le point sur les choses qu'on aime et pas essayer de foutre une étiquette, encore une fois. Parce que sinon, c'est Je pense que c'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup de reconversions professionnelles qui sont très difficiles pour beaucoup. C'est en fait, ben moi j'étais tel métier et puis je suis persuadée que tel métier me va et du coup ils sautent d'une boîte à une autre sans se poser de questions vraiment sur ce qu'ils veulent, ce qu'ils ont envie d'apporter au monde et ce qui les anime. Et du coup, ben le nouveau métier leur correspond pas non plus, ils sont pas non plus heureux. Ils essaient de s'en persuader mais c'est pas le cas. Donc pas sauter d'une étiquette à l'autre, faire le point vraiment sur ce qui nous anime. Donc se poser des questions tous les jours, on peut écrire, on peut en parler avec d'autres gens, on peut observer notre comportement face aux autres. Ah, je me rends compte que quand je parle avec mes copines, toutes mes copines, elles viennent me voir parce qu'elles ont tout le temps besoin de conseils. Et je suis vraiment la bonne oreille. Peut-être que ça veut dire que j'aime bien communiquer avec les gens, peut-être que j'aime bien les écouter, peut-être que j'aime bien les inspirer. Moi, c'est venu comme ça aussi. Donc c'est vraiment, voilà, observer notre comportement avec autrui et dans différentes situations. Je vois que ça te parle.
Oui, ah bah totalement, ouais. À chaque fois, c'est Victoria. Ouais, ouais. Et il y a aussi ceux qui savent finalement au fond d'eux ce qu'ils veulent et ce qu'ils aimeraient faire, mais qui ont peur, qui sont donc bien rangés, comme tu le disais, qui ont ce filet de sécurité et qui n'osent pas dérailler du chemin tout tracé. Qu'est-ce que tu voudrais dire à ces personnes qui ont peur ?
Je voudrais dire à ces personnes qui ont peur qu'il y a personne qui viendra les sauver ni les aider. Personne ne viendra ni vous sauver ni vous aider. Personne va faire les choses à votre place. Donc en fait, il y a deux choix qui sont possibles. Soit tu décides en fait de laisser la peur décider de ta vie. Et la peur, je rappelle que c'est juste une émotion qui est créée dans notre cerveau reptilien et qui est juste là pour que tu restes dans ta zone de confort. Soit tu comprends qu'en fait personne va faire les choses à ta place et que le seul moyen d'y arriver, c'est de t'armer de courage et de traverser ta peur. Et en fait, la plupart du temps, les pires scénarios qu'on s'imagine n'arrivent absolument pas. Alors oui, peut-être que t'as peur de décevoir ta famille, peut-être que t'as peur de pas réussir, peut-être que t'as peur de réussir, peut-être que t'as peur de l'échec, peu importe. Tout ça, c'est des peurs. Maintenant, si tu ne le fais pas, tu ne sauras pas. Si tu n'essayes pas, tu ne sauras pas non plus. Et le seul moyen de combattre sa peur, c'est de passer à l'action. Il y a aucun autre moyen. Il y a rien du tout qui diminue une peur. Il y a rien qui détruit une peur. Même avec tout ce qu'on va te dire, la peur, elle restera là tant que tu t'es pas passé à l'action. Et plus tu passes à l'action, plus tu réduis ta peur et tu lui montres qu'en fait, elle a aucune raison d'être là, tout simplement. Donc, faut passer à l'action, faut le faire. Alors, c'est bien d'avoir un plan d'action aussi, quand même, pour assurer ses arrières. Mais personne viendra te sauver, ça c'est sûr et certain. Et si tu veux rester dans ta peur, tu ne feras jamais rien. Notre peur, elle est là pour nous retenir de tout. On a peur de partir voyager, on a peur de se mettre en couple, on a peur d'ouvrir notre cœur, on a peur de communiquer, on a peur de se montrer, on a peur de tout. Et si t'écoutes que ta peur, tu fais rien hein, dans ta vie. Donc faut juste passer à l'action. Et du coup, pour ça, faut simplement développer son courage émotionnel. Et le courage, c'est à quel point je sais que j'ai les ressources nécessaires pour trouver des solutions face aux problèmes. À quel point je sais que je vais pouvoir retomber sur mes pattes. Et finalement, qu'est-ce que je vais me prouver et quel est l'enjeu pour moi de réaliser ça et pourquoi vraiment j'ai envie de le faire.
Est-ce que tu as des petites routines à nous partager qui t'aident toi au quotidien à trouver un équilibre ?
Alors moi, je fais beaucoup de morning routine et de night routine. Oui. C'est des petites choses que j'avais partagées sur YouTube aussi. Moi, j'ai des routines, on va dire, plutôt pour m'ancrer, pour gérer mon stress parce que je suis quelqu'un de très stressé. Et du coup, bah, je sais que le matin, je me réveille par exemple avec de la méditation, des étirements, en général un petit peu de yoga aussi si je peux. J'aime bien brûler une bougie, des encens, de la sauge, peu importe, juste pour changer l'ambiance en fait dans la pièce. Et je mets de la musique avec mon chéri, on danse le matin alors que j'aime pas du tout danser hein. Mais le but c'est de changer notre physiologie. Pourquoi ? Parce que la manière dont on se tient, ça impacte beaucoup nos émotions. Donc on va beaucoup changer notre physiologie pour commencer de bonne humeur. Tu vois par exemple avant qu'on fasse ce podcast là. Je me suis levée, j'ai allumé mes bougies, j'ai fait mes petits trucs, j'ai mis de la musique directement, je me relaxe, etc. Et je m'amuse pour me dire, ok, c'est bon, là, je suis dans un autre état, je suis prête à commencer ma journée. Parfois, j'écris même les choses de gratitude. Je commence toujours la journée avec un câlin aussi avec mon chéri parce que je pense que la plus grande difficulté aussi dans notre bonheur, c'est de ne jamais rien prendre pour acquis. Et je veux pas prendre les choses pour acquises. Donc, j'observe toujours les belles choses qu'il y a autour de moi et me dire, ah, c'est trop bien. J'ai tout ça autour de moi, c'est magnifique, c'est génial, je suis chanceuse, entre guillemets. Donc ça, c'est vraiment pour le matin. Et pour le soir, pareil, très souvent, je fais beaucoup d'étirements, beaucoup du yoga yin. Je refais de la méditation, je fais de la respiration profonde aussi. J'écrivais beaucoup aussi avant. Je peux aussi écouter de la musique. Il m'arrive aussi de me faire des séances d'auto-hypnose pour m'endormir parce que voilà, vivre les insomnies par moment, c'était pas très 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 facile entre guillemets. Voilà, en gros, c'est des petites routines qui prennent pas forcément longtemps, mais qui permettent vraiment beaucoup de s'apaiser et de bien commencer et la nuit et la journée.
Et qu'est-ce que c'est le bonheur pour toi ?
Le bonheur pour moi, c'est un état Alors, tu sais, il y a différentes définitions. Épicure dit que c'est l'absence de souffrance. Moi, j'y crois pas trop. Je pense qu'on peut être très heureux même en souffrant. Sinon, ça veut dire qu'on n'est jamais vraiment heureux. Enfin, en tout cas, ça veut dire que je suis toujours pas heureuse si je prends cette définition-là. Moi, je me sens très heureuse à l'intérieur de moi et je pense plutôt que le bonheur, c'est un espèce de chemin, en fait. C'est une espèce d'aventure sur laquelle on est tout le temps en train de marcher, tout le temps parce qu'on en veut plus, parce qu'on pense qu'il y a un but à atteindre. Alors qu'en fait, c'est une aventure dans laquelle on passe notre temps à essayer de combler nos besoins primaires, d'être assuré, d'avoir de l'amour, d'être important, de contribuer, tout ça, tous les besoins de l'homme. Et en fait, c'est une aventure sur laquelle on passe notre temps à essayer de les combler, finalement. Et pour moi, le bonheur, c'est surtout d'être aligné, donc c'est-à-dire de vivre en accord avec nos valeurs. Pour moi, c'est le truc le plus important qui soit, de vivre en accord avec nos valeurs, d'être capable de vivre ses rêves, de ne jamais dire « je peux pas, c'est pas possible, c'est impossible », mais de se dire « ouais, en fait, je peux tout faire. Si je veux, je peux tout faire. » Et pour moi, c'est ça le bonheur. C'est « si je veux, je peux tout faire, je suis pouvoir illimité, je peux y aller. » C'est ça, en fait.
Ouais. Ok. Dernière question, Chloé. Quel conseil tu voudrais donner aux jeunes d'aujourd'hui ? Donc, tu nous as déjà donné plein de jolis conseils, mais là, ça serait plus un conseil général, donc peut-être ce que tu aurais aimé qu'on te chuchote à l'oreille quand tu avais 20 ans, justement, et que tu étais en plein dans tes soirées.
Ouais. Oh là là, j'aurais aimé qu'on me dise tellement de choses. Si vous avez 20 ans et que vous m'écoutez, déjà posez-vous les bonnes questions et sachez que tout vous est possible, absolument tout vous est possible, sauf qu'on ne vous le dit pas forcément. Les personnes qui vous éduquent et qui sont autour de vous font du mieux qu'ils peuvent aussi, on leur a pas forcément dit non plus. On n'apprend pas à l'école à aimer, à ouvrir notre cœur, on n'apprend même pas les relations hommes-femmes, on n'apprend pas à séduire, on n'apprend pas à économiser de l'argent, on n'apprend pas à vivre ses rêves, mais tout ça c'est des choses qui sont possibles. Tout ça c'est des choses qui se font, donc si vous avez le moindre rêve, la moindre envie, la moindre petite étincelle, écoutez-la, la laissez pas mourir, écoutez-la, écrivez-la, accrochez-vous à ça, et aujourd'hui, dans ce monde, il y a tous les outils qui vous sont nécessaires pour réaliser ça. Même si votre but, c'est d'apprendre à vous aimer, parce que je sais qu'il y a beaucoup de filles de 20 ans qui sont dans ces cas-là, et même des hommes de 20 ans qui sont dans ces cas-là, ça aussi, c'est possible. Il faut que vous cherchiez les réponses, elles sont partout autour de vous. Il faut juste chercher, parce que c'est pas des choses qu'on apprend de manière conventionnelle à l'école. Donc, voilà, tout est déjà là, mais il va falloir fouiner parce qu'on n'est pas non plus dans un monde dans lequel on prône forcément ces messages-là. Mais tout est déjà là.
Très bien. Eh bien, écoute, on va s'arrêter sur ces belles paroles. Merci beaucoup, Chloé.
Avec grand plaisir. Avec grand plaisir, merci.
À bientôt.
À très vite.
Merci à toi d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. J'espère qu'il t'a inspiré, rassuré, questionné ou fait rêver d'une manière ou d'une autre. Pour suivre les aventures du podcast, je t'invite à t'abonner pour être informé dès qu'un nouvel épisode sort. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram avec le nom du podcast. N'hésite pas à m'écrire si tu veux me faire part de tes retours, de tes impressions et de tes conseils, j'y répondrai avec grand plaisir. Aussi, si tu as aimé l'épisode et que tu souhaites m'encourager dans l'aventure, tu peux me mettre une petite note et un commentaire sur Apple Podcast. C'est un peu le truc chiant qu'on se dit qu'on ira faire plus tard, mais ça prend vraiment 2 minutes et ça m'aide beaucoup, beaucoup. Je te dis à très bientôt pour un tout nouvel épisode. En attendant, savoure la vie comme il se doit et fais des choses folles.